OK, donc c'est pour notre dernière soirée pour avant l'été. Puis on va commencer en septembre. Mais ce soir, on va terminer. Il m'est arrivé un petit pépin quand on était dans les psaumes 28, 29, 30. Puis on avait dit que c'était une trilogie. Le premier nous parle de la prière, le deuxième nous parle de l'adoration. Puis le troisième, le psaume 30, nous parle de la louange. C'est juste que j'ai oublié mes notes à Dieppe. Il fallait que je me prépare aujourd'hui. Mais c'est qu'on va lire. On avait fait le psaume 28 qui était. On avait dit que le psaume 28, la prière, c'est qu'on est occupé de nos besoins. Le psaume 29, c'est l'adoration. On est occupé de Dieu. Le psaume 30, c'est la louange. Puis la louange, c'est l'expression d'un cœur qui déborde. C'est ça qui est la louange. Donc, on va lire le 28, 29, 30 encore, puis on va parler surtout sur le 29 et 30 parce qu'on a fait le 28 la semaine passée. Donc, psaume 28 au verset 1 de David, Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi. Quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire, ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leur œuvre et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. Pardon. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oin. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Psaume de David, fils de Dieu. Rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel ferait trembler le désert de Cadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Psaume 30. Cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne, tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Le Seigneur va bénir la lecture de sa parole ensemble ce soir. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci encore une fois de ta parole merveilleuse. On te remercie parce que tu nous aimes, tu prends soin de nous. Et on sait, Seigneur, que les choses que tu fais sont grandes et merveilleuses. Et devant toi, Seigneur, on veut se courber et on veut recevoir ton instruction. On te remercie pour ton esprit qui nous aide. Puis, Seigneur, on veut exalter ton nom. On veut vraiment démontrer dans la génération dans laquelle on vit comment tu es grand et merveilleux. On te remercie pour toutes ces choses. On te rend grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK, comme on avait dit la semaine passée, c'était une trilogie. Les trois psaumes sont liés ensemble. Puis le premier, le 28, nous parle de la prière, le 29, l'adoration, le 30 nous parle de la louange. On a déjà vu la prière la semaine passée dans le psaume 28, mais on se demande des fois pourquoi la prière en premier, parce qu'on penserait peut-être plus l'adoration en premier, parce que le Seigneur vient en premier, puis nos besoins viennent ensuite. Mais si c'est la prière qui est en premier, ben, c'est probablement parce que avant de pouvoir adorer, il faut être sauvé. Le Seigneur, il cherche des adorateurs en esprit et en vérité, mais c'est un cœur régénéré qui peut adorer le Seigneur, qui peut vraiment recevoir la grandeur de Dieu, comprendre la grandeur de Dieu. Puis c'est comme ça. Donc, avant d'adorer Dieu, il faut être sauvé. Il faut avoir la vie éternelle. Puis c'est pour ça que la vie éternelle, ben, c'est quand on demande au Seigneur. Puis vraiment, la première prière que le Seigneur peut nous répondre, parce que c'est celle-là qui nous met en contact avec lui, c'est quand on vient à lui pour être sauvé. Puis, vous savez, on va aller dans 1 Jean 5 qui nous montre que c'est une prière que le Seigneur exauce toujours. Quand quelqu'un se tourne vers lui pour avoir le salut de son âme, le Seigneur répond toujours. Il nous donne l'assurance de ça, même s'il y a des gens, des fois, qui croient que certains peuvent être sauvés, puis d'autres pas. Le Seigneur, il veut que tous soient sauvés. Puis c'est ceux qui ne seront pas sauvés, c'est parce qu'ils auront rejeté le salut que Dieu a pourvu pour tous les hommes. Mais c'est intéressant. Quand on voit dans 1 Jean 5, on va aller peut-être à partir du verset 9 jusqu'à 15. Donc 1 Jean 5 au verset 9, il dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Donc c'est dans son Fils qu'il le salue. Au verset 10, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Puis vous voyez le verset 13, il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, c'est une assurance merveilleuse que le Seigneur nous donne. La seule condition de notre part, c'est d'avoir reconnu notre besoin pour croire en lui pour notre salut. Donc, il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est sûr que des fois, les gens ont de la difficulté à prendre Dieu au mot puis à croire. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Puis ils vont demander au Seigneur d'être sauvés, mais ils ne croient pas qu'ils sont sauvés. C'est comme s'il y avait quelque chose qui communique pas, ils n'ont pas bien demandé, ou il y a différentes raisons pour lesquelles ils ne vont pas croire à leur salut quand ils ont demandé à Dieu, qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est pour ça qu'il est tout de suite après, au verset 14, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance. C'est tout de suite après le fait de croire pour être sauvé. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, si on demande, c'est sûr que de demander le salut, c'est la volonté, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Puis le Seigneur qui veut que tous les hommes soient sauvés, ben c'est certain que demander le salut pour notre âme, c'est une prière que le Seigneur veut entendre, c'est sa volonté. Il dit au verset 15, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. C'est sûr que ça, c'est une assurance que quand on se tourne vers le Seigneur pour être sauvé, puis qu'on lui demande le salut de notre âme, ayant reconnu notre besoin, ben, le Seigneur sait sa volonté, c'est sûr, il veut qu'on soit sauvé. Donc, on peut croire qu'on l'a reçu quand on l'a demandé. Ça, c'est merveilleux. Mais après qu'on a reçu le salut, ben, là, on peut comprendre la grandeur de Dieu. Parce qu'on rentre en contact avec lui au niveau spirituel. Dieu est esprit. Nous, on est corps, âme et esprit. Avant d'être sauvé, on est mort spirituellement. On ne peut pas rentrer en contact avec Dieu avant d'être de croire. Puis là, Dieu, quand on croit, Dieu nous communique la vie par son esprit. Il nous a ressuscité ensemble. Il nous a mis en contact avec lui-même. Mais avant d'être en contact avec lui, dans 1 Corinthiens 2, on va aller dans 1 Corinthiens 2, les versets 14 à 16, on ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Puis l'adoration, c'est vraiment quand on a reçu la connaissance de Dieu, puis qu'on peut comprendre sa grandeur. Et dans la nature, on voit sa grandeur, mais dans le salut, on voit d'une façon particulière parce qu'on rentre en contact avec lui. Dans 1 Corinthiens 2, 14, il dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, quand on est sauvé, on rentre en contact avec Dieu, puis là, on peut comprendre la grandeur de Dieu, on peut comprendre son amour, on peut comprendre tout ce qui est les choses merveilleuses concernant le Seigneur Jésus-Christ. Puis concernant le Père aussi, parce que le Seigneur Jésus-Christ nous fait connaître le Père. Dans le psaume 29, on voit maintenant qu'il nous présente l'adoration. On le voit quand il dit au verset 1, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. Donc il commence en disant Fils de Dieu. Donc, c'est ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont maintenant devenus des enfants de Dieu, qui sont nés de nouveau, eux peuvent maintenant rendre à l'Éternel un culte agréable, ils peuvent rendre un culte d'adoration à l'Éternel. Donc, il dit, dans le verset 1 et 2, on voit que l'adoration, c'est ce qui est dû à l'Éternel. C'est ce qui lui revient. Puis à personne d'autre, on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, oh, j'adore ceci, j'adore cela, ils adorent n'importe quoi. Mais vraiment, l'adoration, c'est réservé pour le Seigneur. On peut aimer des choses, mais le Seigneur, lui, c'est à lui que revient l'adoration. Puis c'est pour ça qu'il dit, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, adorez l'Éternel. Puis on ne doit pas adorer d'autre chose que l'Éternel. L'adoration, ce n'est pas nécessairement ce que le monde évangélique souvent pense à être. Des fois, on voit des enseignants, ils vont inviter n'importe qui, venez adorer avec nous. Mais est-ce que c'est vraiment de l'adoration? Ça peut être peut-être un spectacle de musique, mais ce n'est pas nécessairement de l'adoration, un spectacle de musique. L'adoration, c'est vraiment la réponse d'un cœur régénéré. Donc, il faut que quelqu'un soit sauvé. L'adoration, c'est la réponse d'un cœur régénéré devant la grandeur et la puissance de Dieu. C'est quand on est ébloui par sa grandeur, par sa puissance, puis la seule chose qu'on peut faire en tant que ceux qui sont régénérés, ceux qui sont en contact avec Dieu, quand on voit sa grandeur, sa puissance, bien, c'est l'adoration qui est produite dans nos cœurs pour donner la louange, la gloire à Dieu. On voit que Job, dans l'Ancien Testament, on voit le mot prosterner, là. Le mot prosterner, c'est l'adoration. Puis on voit que Job s'est prosterné devant la puissance de Dieu quand il avait tout perdu. Puis il nous dit, hein, quand il y a eu l'annonce que il avait tout perdu, même sa famille, c'était sa femme qui lui a dit, Maudit Dieu et meurt. Mais il avait tout perdu, ses richesses, ses troupeaux, ses enfants. Puis quand il a eu l'annonce de ça, dans Job 1, 20, il dit, Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Donc Job a adoré. quand devant la grandeur de Dieu, parce que même sa femme qui lui dit maudit Dieu et meurt, non, lui, il voit encore, il voit là-dedans, il voit la grandeur de Dieu. Aussi, Abraham s'est prosterné lui aussi devant le Seigneur quand les trois anges sont venus pour, puis un c'était le Seigneur, quand ils sont venus vers lui pour lui annoncer le jugement qui allait venir sur Sodome et Gomorrhe, le Seigneur Abraham s'est prosterné aussi. Puis quand on a ce mot-là, prosterné dans l'Ancien Testament, eh bien, ça veut dire adorer. Donc, devant la grandeur de Dieu, la toute-puissance de Dieu, ils ont adoré. Puis, dans le psaume 29, c'est la grandeur de Dieu qui est décrite ici, là. On voit dans le verset 3 à 9, c'est la grandeur de Dieu comme une tempête qui surgit sur Israël. Vous savez, les tempêtes sur Israël, ils viennent de la mer Méditerranée, de la grande mer qu'on appelle, ou les grandes eaux. Puis ça s'en vient sur. Ça arrive de la. Les tempêtes arrivent de l'océan, hein, des mers, des grandes mers. Puis ça arrive sur la terre d'Israël. Puis ça fait une tempête. Surtout, on voit que ça arrive sur la mer de Galilée, parce que la mer de Galilée est à l'intérieur, à l'est de la mer Méditerranée. Puis quand la tempête s'en vient sur la mer de Galilée, ça vient des fois, ça fait des grosses tempêtes. On va en avoir une tantôt aussi. Mais ici, c'est la grandeur de Dieu est décrite comme une tempête. C'est vrai qu'une tempête, quand on voit une grosse tempête, là, que ce soit du vent ou de la pluie ou de la neige, c'est étonnant. Puis surtout des tempêtes de vent, là, c'est tellement, tellement grand, c'est tellement puissant, là. On voit des arbres déracinés, des maisons, quand il y a eu Katrina dans la Louisiane, j'ai visité ce coin-là où ça avait été dévasté, les villages, c'était tout disparu. Tout était défait, tout était. Des fois, il restait juste la slab de ciment à terre, les maisons étaient parties. C'était quelque chose de très grand, ces tempêtes-là. Puis on voit ici dans le verset 3, il dit: La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Puis ça nous fait penser à la Méditerranée, hein, puis là, c'est la tempête qui arrive. Il dit: La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Vous savez, les cèdres du Liban, c'est pas comme les cèdres d'ici, là. Les cèdres du Liban, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est des arbres qui sont millénaires, qui vivent des 1000 ans. Puis c'est vraiment des choses grandes. Nous autres, on connaît des cèdres ici, là, mais je connaissais un Libanais. Puis j'ai demandé, j'ai dit, les cèdres du Liban, c'est des arbres quand même majestueux, c'est des arbres spéciaux. Il dit: Comment t'as entendu parler de ça? Ben, j'ai dit: Dans la Bible, il nous parle des cèdres du Liban beaucoup. Fait qu'il dit: Ah oui. Puis là, il a commencé à me décrire les cèdres du Liban, là. C'est vraiment des arbres qui peuvent avoir 1000 ans, là. C'est des arbres qui sont majestueux. Puis là, lui, il avait la connaissance de ces arbres-là, puis il me décrivait. Donc, il dit ici, la voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Donc, c'est toute une puissance, là, quand on voit ça, là. Puis, comme le verset 3, le tonnerre sur les grandes eaux, là, c'est la Méditerranée, puis elle brise les cèdres du Liban, verset 5. Puis, il dit aussi le Liban et le Sirion. Le Liban, c'est ce qui est au nord d'Israël. On entend parler beaucoup, là, du Liban, là, Hezbollah qui frappe sur Israël, puis constamment. Puis là, Israël qui riposte. Mais. Le Sirion aussi, c'est la montagne de l'Hermon. Puis la montagne de l'Hermon est à l'est du Liban, est au nord aussi du pays d'Israël. Puis la montagne de l'Hermon, c'est une montagne qui est assez spéciale. C'est de là que prennent les sources du Jourdain. Puis ça descend dans la mer de Galilée jusqu'à la mer Morte. Donc il dit ici, quand il parle du Liban, puis et le Sirion, il dit, il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes bœufs. Donc c'est quand même quelque chose, c'est impressionnant, là, ici, là. Puis, mais on sait quand il nous parle de la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel, c'est tellement puissant, là, mais on sait que c'est par sa voix que le Seigneur parle, la parole, que le Seigneur a créé l'univers dans lequel on vit. Quand on pense à ça, là, la voix de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus, qui est la parole de Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses. Imaginez que peut faire la voix de l'Éternel. Ben, elle peut faire tout ce qu'on voit là. Puis de l'infiniment grand à l'infiniment petit, ça a tout été créé par lui. On sait que la théorie de l'évolution essaye d'expliquer cette venue-là, mais ça fait pas de sens qu'il y ait arrivé quelque chose sans rien. Il faut qu'il y ait un créateur. Puis on voit dans l'ordre que tout, dans l'harmonie de toute la création de Dieu, puis ça fonctionne. Ça fait des millénaires que ça fonctionne. Puis tout est pourvu, tout est bien calculé. On ne peut pas faire autrement que de dire qu'il y a quelqu'un qui a une intelligence qui a mis ça ensemble. Ça ne peut pas faire autrement. Dire autrement que ça serait d'être un fou. C'est un peu comme si on voit une montre, puis on dit que ça, c'est arrivé par hasard. Ben, si on dirait ça, on passerait pour fou. Mais c'est bien plus facile qu'une montre soit arrivée par hasard. L'univers dans lequel on vit. Donc, c'est la voix de l'Éternel ici, là. Puis, on est devant quelque chose de très puissant ici, là. Mais on pense à comme il nous parlait d'une tempête pour nous montrer la grandeur de Dieu. Mais on va aller dans Marc au chapitre 4. Dans Marc au chapitre 4, puis ici, on a une tempête aussi qui nous est décrite. Dans Marc au chapitre 4, et on va lire à partir du verset 35. C'est avec le Seigneur Jésus, parce que puis on sait que le Seigneur Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a créé toutes choses. Il dit, ce même jour, au verset 35 de Marc 4, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Imaginez la situation, là. Les flots sont en train de remplir la barque. On dit un bateau, quand le bateau est sur l'eau, il n'y a pas de problème. C'est quand l'eau est dans le bateau que le problème arrive. Puis là, les flots sont en train de remplir la barque. Puis il y a un grand vent, là. Puis il y a des grandes vagues. Puis eux, là, c'est un peu comme si la tête nous tourne là, dans une situation comme ça. Puis le Seigneur, lui, il dort à la poupe sur le coussin. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Il dit, s'étant réveillé. Ils lui ont dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Il dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Le Seigneur était avec eux autres dans la barque, il n'avait pas dit, Allons périr au milieu de la mer. Mais il avait dit, Allons de l'autre bord, passons de l'autre bord. Mais là, il y avait d'autres barques aussi, il n'était pas tout seul, là. Il y avait d'autres barques qui voyaient cette tempête-là. Puis, qu'est-ce que ça a dû être? Imaginez-vous dans une tempête de même, là, tout le monde est à plein régime là, pour essayer de contrôler, puis essayer de survivre. Puis tout d'un coup, quand le Seigneur se lève dans la barque, puis qu'il commande, il dit de sa voix, c'est la voix de l'Éternel, il dit, Silence, tais-toi. Et il y eut un grand calme. Pouf! C'est comme si la tête te vire encore, là, puis là, wow, ça arrête tout, là. C'est toi. C'est comme, c'est quasiment dur d'arrêter toi aussi, là, parce que la tête te tourne, mais arrêtez les vagues. Hey, c'est bien beau, oui, arrêtez le vent, mais arrêtez les vagues. Les vagues, ça continue pendant longtemps. Mais il dit ici, il y eut un grand calme. Puis je crois que ça les a amenés à adorer. Parce qu'ils ont dit, au verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Donc, imaginez la situation, là, d'avoir été dans cette tempête-là, puis que tout s'arrête tout d'un coup, là, au commandement du Seigneur. Vous savez, des fois, nous autres, on va dire, ah, ben, ah, il va arrêter de mouiller. Mais là, tranquillement, ça arrête. Mais là, c'est pas la situation. Il y a eu un grand calme soudain, là, quand le Seigneur a commandé. Puis ça, c'est la voix de l'Éternel. Puis, je pense que c'est ça, des choses de même. Quand on voit sa grandeur, sa puissance, sa majesté, on peut pas faire autrement en tant que racheté que d'adorer le Seigneur. Puis, ça, c'est vraiment merveilleux. Mais, vous savez, on est plus en sécurité dans une tempête avec le Seigneur que sur une mer calme sans lui. On est beaucoup plus en sécurité avec le Seigneur que dans une grande tempête que sur une mer calme sans lui. Fait que c'est ça qu'on peut comprendre ici. C'est pour ça qu'au verset 10, il dit, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Quand Noé, c'était une grande tempête, ça, le déluge, là. Mais le Seigneur était sur son trône. Le Seigneur contrôlait. Il a sauvé Noé à travers ce déluge-là. Il a duré 40 jours qu'il n'y a plus sur la terre. Il a sauvé Noé et ses trois garçons et leurs femmes. Il a sauvé 8 personnes. Ce n'est pas parce qu'il n'aurait pas pu en sauver plus, parce qu'il a sauvé plein d'animaux aussi, mais c'est parce que des gens n'ont pas voulu être sauvés. Mais voyez-vous, devant ce déluge-là, c'est sûr qu'aujourd'hui, les gens ils ont de la misère à croire à un déluge, mais le Seigneur est tout-puissant. Fait que ce déluge-là qui est venu sur la terre, c'est réel, c'est arrivé. Puis, mais qu'est-ce que Noé a fait quand il est sorti de l'arche? Ben, il a adoré devant la grandeur. Toute la terre avait été détruite, eux, ils avaient été sauvés. Puis là, maintenant, ils sont ressortis de l'arche sur une nouvelle terre. Puis, il a offert des sacrifices avec les animaux purs qu'il y avait. Donc, Noé a adoré en sortant de l'arche. Mais les disciples ont adoré devant la grandeur et la puissance du Seigneur, puis dans toutes nos circonstances. On peut, même les plus adverses, c'est là qu'on peut adorer le Seigneur. Parce qu'il dit, s'il dit l'Éternel était sur son trône lors du déluge, au verset 10, il dit l'Éternel sur son trône règne éternellement. Fait que s'il a régné dans le temps du déluge, il a régné aussi, il règne dans n'importe quelle circonstance que nous. C'est-à-dire que lui est au contrôle de notre situation. On peut vraiment, dans des grands moments d'adversité, on peut savoir que le Seigneur est au contrôle. Puis ça nous rassure, puis ça nous donne il est plus grand que nos circonstances. Il peut calmer la tempête n'importe quand. Puis nous, ça nous amène à voir sa grandeur. Puis quand on voit sa grandeur, mais qu'est-ce qui arrive? C'est que on va l'adorer au verset 11. Il dit, l'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. À cause de cela, il est digne de notre adoration. Hein, comme il disait au début, là, il disait, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. Donc, c'est ça qui est, c'est l'adoration. Mais c'est pour ça que, vous savez, quand on va adorer, quand on prend le repas du Seigneur, on ne veut pas parler d'autre chose. Des fois, il y a des gens qui ont de la difficulté à comprendre que le repas du Seigneur, c'est vraiment ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Faites ceci en mémoire de moi. Il veut qu'on se souvienne de lui, puis c'est ça, en se souvenant de lui, c'est comme ça qu'on va adorer. Il y a des gens qui ne comprennent pas, ils vont penser que le repas du Seigneur, c'est un temps pour raconter que j'ai été évangélisé, j'ai fait des choses ou le Seigneur. Non, c'est vraiment d'être centré sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Un peu comme ces disciples-là, là, quand le Seigneur a arrêté la tempête, là, c'est certain que dans leur pensée, ils en voyaient juste un. Là. Ils voyaient juste le Seigneur, celui qui avait commandé au vent et à la mer. Puis on dit, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Donc, ce n'est pas le temps de parler de tout ça, mais c'est vraiment le temps de se centrer sur la personne du Seigneur Jésus-Christ qui, lui, nous révèle le Père. Puis, mais c'est pour ça que le Seigneur, c'est ça qu'il recherche. Le Seigneur recherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est sûr que c'est la chose la plus, c'est le ministère le plus élevé d'un chrétien, c'est d'adorer le Seigneur. Puis le Seigneur disait dans Jean 4, on va aller dans Jean 4. Donc, au repas du Seigneur, c'est vraiment un moment où quand le Seigneur est exalté à nos yeux, ben, à nos oreilles, parce qu'on ne le voit pas, mais quand le Seigneur est exalté, ben, ça nous amène à l'adoration devant. C'est vraiment de montrer la grandeur puis la puissance du Seigneur, puis son amour pour nous. Mais regardez La femme samaritaine, ici, dans Jean 4, au verset 19, elle dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Puis là, elle dit au verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, elle était à Samarie, puis elle dit, d'autres, nos pères, ils ont adoré sur la montagne. On sait que Jéroboam avait déplacé l'adoration ou le culte, il avait fait des veaux. Puis il avait mis pour que les gens aillent plus à Jérusalem. Elle dit, c'est pour ça qu'elle dit, la femme lui dit, la femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Mais au verset 20, il avait dit, attendez un petit peu, au verset 22, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Fait qu'il pensait adorer Dieu, mais il n'adorait pas vraiment, là. Parce que c'était des idoles, c'est des veaux que Jéroboam avait faites. Mais il dit, puis là, après ça, ben, quand le peuple a été mélangé, il avait été emmené en captivité, le peuple du royaume du Nord avait été emmené en captivité. Puis quand les Assyriens ils ont envoyé des gens différents vivre dans le pays, mais parce qu'ils ne connaissaient pas le Dieu du pays, ben, les bêtes sauvages, ils venaient contre eux autres, fait qu'ils ont renvoyé des gens d'Israël pour qu'ils leur apprennent à servir le Dieu d'Israël. Mais c'était vraiment de l'idolâtrie. C'est pour ça que le Seigneur, il lui dit, si vous adorez ce que vous ne connaissez pas, comment est-ce qu'on peut adorer ce qu'on ne connaît pas? Quand on voit que l'adoration est produite, quand on voit la grandeur, puis la puissance, puis l'amour de Dieu, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc, c'était le culte dans l'Ancien Testament était centré à Jérusalem. C'est là que ça se passait. C'est là qu'il y avait le temple. C'est là qu'on pouvait adorer l'Éternel. Puis, mais après ça, il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Voyez-vous, c'est pour ça que c'est impossible pour quelqu'un qui est mort spirituellement d'adorer Dieu. Il faut d'abord naître spirituellement, naître de nouveau, pour pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité. Le Seigneur, il démontre vraiment ici qu'il faut avoir, on peut seulement adorer en esprit et en vérité. Donc, c'est important. Il y a peut-être beaucoup de gens qui pensent adorer Dieu, mais ce n'est pas nécessairement l'adoration que Dieu cherche. C'est pour ça, des fois, on se demande, est-ce que, des fois, comme un peu comme avec notre femme ou avec, la femme avec son mari, on veut faire plaisir, mais est-ce qu'on y fait plaisir selon nous autres? Ou est-ce qu'on y fait plaisir selon elle? On peut y donner des choses que nous autres, on aime, mais ça ne veut pas dire qu'elle aime ça, non. C'est que c'est mieux de vraiment lui donner ce qu'elle, elle aime. Puis c'est ça, le Seigneur, ce n'est pas ce que nous autres, c'est ce qui nous fait du bien à nous autres, là. Ce qui est en vue, c'est ce qui va glorifier, c'est ce qui va donner la louange, rendre à l'Éternel, comme il dit ici, gloire et honneur. Puis le Seigneur, il nous dit ici que Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité, des gens sauvés qui voient sa grandeur, qui voient sa puissance, qui goûtent à son amour, puis leur cœur vraiment veut s'exprimer par l'esprit en adoration. C'est ça l'adoration ici qu'on voit, puis c'est à cause de la grandeur et la puissance de Dieu. Maintenant, on arrive au psaume 30. Puis ici, c'est la louange. Encore une fois, c'est la louange. Il nous dit dans le verset 2, A, il dit, je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Donc, c'est la louange. Puis au verset 5, il dit, chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Donc, c'est encore une fois, c'est vous qui l'aimez. La louange maintenant, là, ça vient d'un cœur qui déborde, comme on a dit tantôt, l'expression d'un cœur qui déborde à cause de ça, c'est dans la relation qu'on a avec le Seigneur, comment il agit dans notre vie, comment on voit la réalité du Seigneur dans notre vie. Vous savez, il y a des gens qui disent, ah, personne n'a vu Dieu. Ben, on communie avec lui à tous les jours. Dans la prière, dans la lecture de sa parole, puis on voit le Seigneur guider nos vies. On voit le Seigneur nous montrer sa volonté. Puis quand on obéit au Seigneur dans sa volonté, c'est vraiment merveilleux ici. Puis, mais Il y a plusieurs qui disent louer le Seigneur, mais est-ce que c'est vraiment une louange au Seigneur ou bien c'est quelque chose qui me fait du bien à moi? Vous savez, ça c'est important. Comme on peut demander, est-ce qu'on s'est jamais demandé, Seigneur, est-ce qu'il aime la louange que je lui rends? Ou est-ce que c'est juste quelque chose qui me fait bien, ça me fait bien me sentir, puis c'est comme centré sur moi, là, quelque chose que j'aime. Une chose, c'est que faut pas oublier, les émotions ne produisent pas la louange. Ce n'est pas les émotions qui produisent la louange. Quoique la louange va produire une émotion, mais ce n'est pas l'émotion qui produit la louange. On peut avoir des grandes émotions. Les émotions, c'est au point de vue de la chair. Puis des inconvertis peuvent avoir des grandes émotions. Mais l'émotion, ce n'est pas ça qui produit la louange, mais la louange va produire l'émotion. C'est sûr que quand on adore le Seigneur au point de vue spirituel, ben, au point de vue de l'âme, on est aussi impliqué, mais c'est vraiment l'esprit qui dirige ici, là. La louange, comme on a dit, c'est l'expression d'un cœur qui déborde à cause de la présence du Seigneur dans nos vies. C'est que le Seigneur est avec nous dans nos vies. Puis, vous savez, quand on marche avec le Seigneur, surtout quand ça fait un bon bout de temps qu'on marche avec le Seigneur, on peut regarder dans notre vie en arrière, puis on peut voir qu'est-ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Hein? C'est sûr, quand on fait pas longtemps qu'on est sauvé, on peut quand même voir des choses que le Seigneur fait, puis qu'il a fait, bien, le fait qu'il nous a sauvés. Le fait qu'il nous a donné l'assurance, il nous a donné une joie merveilleuse de connaître nos péchés pardonnés. Mais l'expérience d'une vie passée avec le Seigneur, c'est merveilleux. Vous savez, quand on marche qu'on est son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, quand on regarde dans le passé, puis on voit comment le Seigneur, on peut voir, on dit, ah, regarde, le Seigneur m'a amené là parce qu'il voulait m'amener ici. Puis on voit qu'est-ce que le Seigneur a fait. Puis c'est pour ça que David, il dit ici, cantique pour la dédicace de la maison de David. Si on parle de la maison de David, on peut parler de sa maison physique qu'il avait construite. Oui, il avait construit une belle maison physique, mais on peut penser à sa maison en tant que sa postérité. Puis David, il peut regarder en arrière puis voir comment Dieu lui a fait des promesses par rapport à sa maison. Puis il dit dans 2 Samuel, hein, il dit, c'est lui qui voulait bâtir une maison à l'Éternel, puis il dit, c'est toi qui m'as bâti une maison. Parce que David, c'est la lignée des rois, puis le plus grand fils de David, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui devient le roi éternel. Donc, quand il parle, c'est à cause de David, il peut voir qu'il Dieu l'a pris à garder des brebis, puis il l'a conduit à travers des situations très difficiles avant de le mettre sur le trône. Parce qu'il avait donné la promesse qu'il allait être sur le trône, mais avant d'accéder au trône, David a vécu des moments très difficiles. Il était pourchassé pour sa vie par Saül, puis il combattait contre les ennemis d'Israël. Puis il a été, même son fils Absalom s'est révolté contre lui. Il y a eu bien des problèmes, David, dans sa vie. Mais le Seigneur était avec lui. Le Seigneur, c'est pour ça qu'il peut regarder en arrière, puis là, il parle de louer l'Éternel. Ça, c'est vraiment merveilleux. Puis comme on a dit, la louange, c'est le cœur qui déborde. Puis David, il voit ça quand le Seigneur lui a construit une maison. Puis il lui a donné quelque chose de grand. Puis David, en regardant en arrière, déborde. Puis il loue l'Éternel ici. C'est sûr qu'en regardant notre expérience avec le Seigneur, en voyant sa délivrance dans nos vies, on veut le louer. Voyez-vous, dans le verset 2, il dit, je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. David a eu la victoire en dernier. Puis il dit au verset 3, il dit, Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. C'est pour ça que David, il veut louer l'Éternel ici. Au verset 4, il dit, Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Fait que le Seigneur vraiment l'a mis à l'écart. Puis c'est ce qui pousse David ici à louer l'Éternel. Puis c'est ça qui résulte en louange pour le Seigneur au verset 5, chanter à l'Éternel. Là maintenant, David, En parlant de ces situations-là, ben, la conclusion de tout ça pour lui, c'est chanter à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Même dans la discipline, même dans l'adversité, par après, quand on a passé ces moments-là dans l'adversité, puis même dans la discipline, parce que le Seigneur va nous discipliner, puis merci qu'il le fait, eh bien, on peut voir que sa main était là, puis était au contrôle. Dans versets 6 à 9, il dit, car sa colère dure un instant. Oui, on peut être sous la colère de Dieu, mais ça dure un instant. Et il dit, mais sa grâce, toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Vous savez, on a toujours. Quelqu'un disait que un chrétien n'a jamais des hauts puis des bas. Il dit, les chrétiens, il y a des bas et des hauts. Parce que dans le psaume, il dit, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Donc, on ne finit pas sur le bas, on finit sur le haut. Les gens dans le monde, ils ont des hauts et des bas, mais nous autres, en tant que chrétiens, on a juste des bas et des hauts. On passe, oui, des moments bas, mais ça finit toujours sur une note plus haute. Quand on est avec le Seigneur, comme il dit ici, le soir arrivent les pleurs, mais le matin, l'allégresse. Puis quand on est le soir, ben on attend au matin. Et ici, puis il dit au verset 7, je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermé ma montagne, mais il a dit, tu cachas ta face et je fus troublé. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Puis, vous savez, c'est au début de quand on vient d'être sauvé, on dirait que tout va bien, hein, c'est tout facile. Puis, on est comme un petit bébé là, qui est nourri de sa mère. Puis, il a pas besoin de faire rien, tout est fait pour lui. Mais quand il grandit, à un moment donné, ben là, faut qu'il apprenne à des choses. Il faut qu'il apprenne, il y a toute l'expérience, toute les choses de la vie qu'il faut apprendre. À un moment donné, il va falloir qu'il mange lui-même, il va falloir qu'il fasse ses choses lui-même. Puis c'est la même chose dans le Seigneur. Quand on est nouveau-né, on dirait que le Seigneur, il nous donne tout, mais à un moment donné, il veut qu'on marche par la foi. C'est pour ça que des fois, il va cacher sa face. Comme il dit ici, tu cachas ta face et je fus troublé. Puis c'est vrai que ça nous trouble. Mais qu'est-ce qui arrive quand le Seigneur cache sa face? C'est que maintenant, on peut dépendre de lui, là. Puis, il y a un cantique en anglais que j'aime beaucoup. Il dit, quand la noirceur voile son doux visage, je me repose sur sa grâce inchangeante. Donc, lui, il change pas. Même si je ne le perçois pas, c'est comme si le Seigneur, il s'était retiré, mais il s'est pas retiré. Il met notre foi à l'épreuve pour qu'on puisse quand même avancer avec la foi qu'il nous a donnée de savoir qu'il est là quand même. Même si on ne le voit pas, il est là quand même. Puis, il va prendre soin de nous autres. Voyez-vous, au verset 10, il dit, que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Au verset 11, il dit, écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi. Puis regardez le verset 12, qu'est-ce qu'il dit ici, là, dans les situations les plus difficiles, quand on regarde à lui, là, ça va produire des louanges. Puis là, il dit, et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Souvenez-vous, ça finit sur une bonne note, là. Il a crié à l'Éternel. Puis c'est vrai, le Seigneur nous amène au bout de nous-mêmes, mais ce n'est pas au bout de lui. Le Seigneur est souvent à la dernière minute, mais il n'est jamais en retard. Il va toujours arriver au bon moment. Quand on est rendu à notre maximum, quand on est rendu au point de briser, le Seigneur, comme lui, il dit, là, il dit, tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Donc, ça, c'est dans les situations, même les situations les plus adverses, ils vont produire en nous là, des grandes louanges. On voit ça dans les psaumes. Hein? C'est quoi qui a produit les psaumes? Ben, c'est les psaumes, c'est comme des grappes de raisin vraiment merveilleuses, délicieuses, là. Mais c'est quoi qui a produit ça? Ben, c'est l'adversité, c'est les tribulations. David en a écrit beaucoup, puis David a connu beaucoup des douleurs, il a connu beaucoup de difficultés dans sa vie. Puis, mais ça a produit, il a pu exprimer ces choses-là dans des. C'est ça un peu, c'est le cœur qui déborde ici, qui s'exprime, là. William MacDonald dit, en rapport avec la prière, il dit, la flèche qui est lancée de l'arc le plus tendu va rejoindre le plus haut. C'est sûr que plus l'arc est tendu, puis en parlant de l'arc, on parle de nous-mêmes, plus on est dans des situations difficiles, ben plus la flèche va monter, va rejoindre haut. De même dans nos circonstances, dans les plus adverses, la louange en sera la plus profonde. Puis on le voit dans les psaumes. Hein? Mais même on voit dans les hymnes qui ont été écrits, là. T'sais, quand on voit les hymnes qui ont été écrits, là, ben, souvent c'était dans des circonstances difficiles, comme quel repos céleste. Hein? Je pense qu'on connaît ce chant-là. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Puis c'est écrit par Horatio Bonheur, qui lui avait perdu toutes ses filles. Il y avait juste sa femme qui avait été sauvée parce que en traversant l'océan, le bateau avait coulé. Puis il y a eu un télégramme de sa femme de l'Europe qui lui disait sauvée seule parce que toute sa famille était perdue. Puis il a composé ce cantique-là. C'est vraiment, quand on connaît l'histoire, ça nous fait apprécier encore plus le cantique qui a été chanté. Puis ça, c'est des louanges au Seigneur de se confier en lui. Ça fait que c'est ça, le Seigneur, il veut d'abord qu'on soit sauvé. Donc on demande le salut. Ensuite, on peut l'adorer. Puis, à cause de la vie qu'on vit avec lui, dans n'importe quelle circonstance qu'on se trouve avec le Seigneur, eh bien, on peut, après ça, le louer parce qu'on voit sa grandeur, puis sa bonté envers nous, qui prend soin de nous constamment. Même quand on ne le voit pas, il est là, il prend soin de nous. Comme il disait, pendant le déluge, Noé était dans l'arche, mais l'Éternel était sur son trône. Ça fait que je vais m'arrêter là pour l'instant, puis s'il y a des commentaires, s'il y a des questions, on va prendre un temps pour écouter puis dire ces choses-là. Ça fait que je vous donne la possibilité de reprendre votre micro. Si jamais vous avez un problème, laissez-moi savoir, puis ça peut arriver que ça marche pas là.
En lisant le psaume 30, la louange, c'est pas juste des cantiques.
Non, non, ça peut s'exprimer par des cantiques, mais c'est le cœur qui déborde pour le Seigneur.
C'est la première idée qui nous vient quand on parle, on va louer le Seigneur.
Ben, ça.
C'est les chants qui viennent en premier, là,
Ben, je
qu'on a.
pense que c'est à cause, dans le monde évangélique,
Oui.
on a associé la louange, c'est la musique, mais c'est pas juste dans la musique, non, tu as raison. C'est vraiment le cœur qui déborde. Tu peux chanter sans louer. Si
Oui.
c'est juste les émotions, comme on a dit, les émotions ne produisent pas la louange, mais la louange va produire des émotions.
Tantôt, Gérald, tu disais que quand on regarde notre passé,
Ouais.
on voit les choses, mais même avant d'être sauvé, on peut voir que le Seigneur avait l'œil sur nous. Hein.
Ouais.
Avec le
Ça
recul, hein?
ouais, parce qu'il y a des fois que. Moi, je sais qu'il y a des fois j'aurais pu mourir, là, mais le Seigneur m'a épargné.
Juste une observation. Dans le psaume 29, à partir du verset 3, c'est la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse, la voix de l'Éternel brise les cèdres. Après ça, il dit, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu, la voix de l'Éternel fait trembler le désert, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Puis, je pensais que au début de la création, c'est la voix de l'Éternel qui a tout créé. Fait apparaître la lumière, puis les fleurs, les animaux et les hommes. C'est la même voix qui console, c'est la même voix qui est puissante.
Ouais.
C'est la voix de l'Éternel.
Il dit et les choses furent. Ouais. C'est toute une puissance, la voix de l'Éternel.
C'est pour ça que le peuple d'Israël ne voulait pas l'entendre, puis on dit à Moïse, écoute-toi, puis tu nous le diras.
Oui, parce que c'était toute une tempête, là. Il y avait du feu, puis des éclairs, puis des tonnerres. Puis si quelqu'un s'approchait de la montagne, il allait mourir, même les animaux.
J'aurais une
Oui,
question.
oui.
J'aurais une question générale, mais j'ai oublié le passage
OK.
dans lequel tu l'as lu. Tu disais, on lisait dans le passage, nous sommes jugés par personne.
Ah, dans 1 Corinthiens 2?
Ah, peut-être.
Ouais, il
J'aimerais
dit,
ça que
ouais,
tu reviennes sur ce passage.
ouais, 1 Corinthiens 2, c'est ça, il dit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui, puis il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on les juge. Il dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, nous avons la pensée de Christ. C'est que je pense que Donald, Marie, ils ne peuvent pas avoir attendu un petit peu. Je vais leur donner la possibilité de. Attendez un petit peu. OK, ça devrait marcher, là. OK. OK, c'est ça. C'est que donc, quand on est né de nouveau spirituellement, mais là, on reçoit l'esprit. Parce que Dieu communique avec nous autres au niveau de l'esprit. Mais avant d'être sauvé, on est mort spirituellement. C'est qu'au moment qu'on est sauvé, là, c'est pour ça que des fois, il disait l'expression, hein, puis là, la lumière est arrivée. J'ai vu la lumière. Parce que tout d'un coup, on comprend, puis on se dit, comment ça se fait qu'on ne comprenait pas auparavant? C'est tellement simple. Mais avant ça, on ne comprenait pas parce que c'était au niveau de l'esprit. Nous autres, on était morts. On ne recevait pas la communication. C'est comme si on essayait de parler au téléphone, puis la communication n'a pas été établie. Mais il faut d'abord établir la communication. Mais oui, c'est ça. Il dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Ça fait que nous autres, on peut juger des choses que le Seigneur nous donne. Ça veut dire qu'on peut les comprendre. Puis il dit, il n'est lui-même jugé par personne.
OK, merci.
Je me demandais, Gérald, si on peut associer la louange avec la reconnaissance.
Ben oui, dans un sens, ben oui, parce que
Dans un
c'est de
sens.
la reconnaissance.
Ouais. Puis
Ouais.
c'est-tu correct de dire, tu as dit que la prière, on s'occupe de nos besoins,
Ouais.
l'adoration, on s'occupe de Dieu lui-même,
Ouais.
tandis que c'est-tu correct de dire la louange, on s'occupe de nos bénédictions?
Ouais, c'est ça, c'est un cœur qui déborde. Ouais.
Voilà.
Ouais. À cause des bénédictions, même dans l'adversité.
Ouais, c'est ça.
Parce que souvent, l'adversité, on reconnaît plus la grandeur de Dieu quand on était. C'est quand on n'a pas besoin de rien, puis on oublie de prier. Mais quand on est dans le besoin, c'est là qu'on se tourne vers lui. Puis quand il nous délivre, ben, ça nous donne de le louer.
J'aimerais savoir comment tu, dans le psaume 28, là, comment tu exprimes le fait que, on sait que dans le Nouveau Testament, il dit prier pour nos ennemis, etc.
Ouais.
Puis quand là, il dit donner leur salaire qu'ils méritent, qu'ils ne sont pas attentifs, etc.
Ouais, ben, c'est
Comment?
ça. Rends-leur selon leurs œuvres, selon la malice de leurs actions. C'est juste que ici, on est passé de la mort à la vie. On n'est pas dans leur. On n'est plus dans ces voies-là, là. Eux, ils veulent marcher dans ces voies-là, mais nous autres, on a été séparés de ça. On marche maintenant dans les voies de Dieu. Puis, comme il dit un petit peu. Il dit, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, verset 5, à l'ouvrage de ses mains, qu'il les renverse et ne les relève point. Ça fait que les autres, ils ne veulent pas porter attention à ce que le Seigneur fait. Puis, on parlait de ça, c'est juste dimanche à l'Assemblée. Le stupide ne comprend pas, c'est dans le psaume aussi, ne reçoit pas les choses de Dieu, il veut pas, il s'intéresse pas à ces choses-là. C'est pour ça qu'ils sont dans ces voies-là. Mais nous autres, il nous a fait relever là, un petit peu. D'accord. Hein?
Ben, le
Tu.
verset 7, il dit que l'Éternel est ma force.
Ouais.
Ouais,
Bon,
c'est.
mais il y a une place qui dit qu'il m'a relevé, là. Je sais pas, c'est peut-être dans le psaume 29. Non, ou dans le 30. C'est grâce, le soir et les pleurs. Quelqu'un dit, la poussière est-elle pour moi, accorde-t-elle ta fidélité éternelle. Et tu as changé, mais tu as délié mon sac, fait que mon cœur te chante et ne sois pas muet. C'est ça, tu as délié mon sac, fait que il nous sort, quand on passe du temps dans la présence du Seigneur, par reconnaître la grandeur des choses qu'il fait, ben on n'a plus le goût des voix. Puis je pensais à ça, je me disais, si on s'arrête pas à passer du temps avec le Seigneur, puis à le connaître, là. Puis vous savez, des fois, on est soit dans une réunion ou en lisant la parole de Dieu, puis il nous arrive quelque chose de merveilleux là, par rapport au Seigneur. Puis là, ça réjouit notre cœur. Puis on est comme construit, là. C'est ça. Mais je me dis, si je ne l'avais pas vu, ça, ou si je n'avais pas été là pour entendre ça, j'aurais pas cette joie-là que j'ai présentement. Là. Ça fait que des fois, on se prive de des grandes bénédictions en s'éloignant. Puis les gens du monde, on va leur parler de ça, puis ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas connaître les choses de Dieu. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Il veut pas la pensée de Dieu dans sa pensée. Puis il trouve les choses que nous autres, on partagerait, qu'on apprécie, qui réjouissent notre cœur, pour eux, c'est banal.
Ce que tu as fait tantôt, c'est pas 5B, quand il
5B.
dit à l'ouvrage de ses mains qu'il les renverse et ne les relève point.
Ouais,
C'est
c'est ça
ça que tu
que. Ouais, mais lui, c'est ça, lui, il était relevé, là. Ouais.
Le
Et je
psaume
suis.
53,
Ouais.
le psaume, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu.
Ouais. Ouais. Et si vraiment le verset veut dire, si l'insensé dit en son cœur, point de Dieu, parce qu'il n'y a, c'est ajouté là, pour la lecture, là, pour la compréhension, mais c'est ce qu'il ne veut pas la pensée de Dieu. L'insensé dit dans son cœur, non, Dieu, il ne veut pas cette pensée-là dans son cœur. Il veut vivre sans Dieu. Puis de plus en plus, dans le siècle qu'on vit présentement, mais c'est toujours ça, hein, essayer de tout être sécurisé, être capable d'avoir, on a des assurances pour tout, puis on a 9 à 1, puis on a tout ce qu'il faut pour nous rendre sécures sans Dieu. Mais ça ne marche pas tout le temps. Ça ne marchera pas à la fin non plus. Dans la tribulation, tu pourras pas appeler le 9 à 1.
Tantôt, quand tu disais qu'on se réjouit, ça me fait penser aux disciples d'Emmaüs.
Oui,
Qui
c'est
au
bien.
cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait?
Oui, c'est ça, parce que dans toutes les
Cette
Écritures,
joie-là,
oui,
là.
c'est ça, exactement. J'avais ça en pensée aussi, le chemin d'Emmaüs, parce qu'il leur montrait dans toutes les Écritures les choses qui le
Qui
concernaient.
était, oui.
Ouais. Puis leur cœur était comme l'autel de parfum, là. Le Seigneur mettait le parfum sur le cœur qui était brûlant, puis ça produisait l'adoration, là. C'est pour ça que quand on se réunit pour adorer le Seigneur, ben, on met les choses de Christ sur les cœurs qui sont. Puis c'est pour ça que quand on exprime dans l'assemblée, c'est important d'exprimer des choses qui sont l'odeur de Christ, le parfum de Christ sur les cœurs pour que ça puisse produire une odeur agréable au Seigneur.
Gérald, je pense que c'est au psaume 30, le verset 2, c'est ce que tu cherchais.
Oui, c'est ça, exactement. Je
Okay.
t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Oui, c'est ça. Merci.
On disait tantôt, Gérald, qu'on peut chanter un cantique sans louer le Seigneur. Par contre, on peut louer le Seigneur sans chanter de cantique.
Oui, c'est ça,
Que c'est. Il est de l'exprimer, oui.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment, ça vient du cœur. La louange, ça vient du cœur qui déborde, là. C'est comme, c'est quelque chose qui déborde, puis c'est comme le psaume 45, hein, il dit, mais dans le psaume 45, il exprime ça, là. Il dit au chef des chants sur les listes des fils de Corée, cantique, chant d'amour, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Puis là, il commence à décrire le Seigneur avec toutes les choses. C'est comme si les paroles bouillonnent dans mon cœur. Puis là, c'est quelque chose qui bouille. Il faut que ça s'échappe parce que hein, si on met la pression, si on garde ça là, sous pression, là, ça va éclater à un moment donné. Ça ne veut pas être contenu.
Mais un va pas sentir l'autre. La louange, quand tu chantes un cantique, que les paroles viennent te toucher, comme tu disais tantôt, la louange, ça nous amène à l'adoration après.
Ouais. Mais pour quelqu'un qui n'est pas régénéré, ces paroles-là,
Non.
ils voudront rien dire.
C'est
Mais
sûr, c'est sûr.
fait qu'on va s'arrêter là. Le temps est arrivé. On va prier. Puis ceux qui doivent partir pourront partir. Puis en tout cas, merci beaucoup pour avoir été assidu toute l'année là, pour toutes
Merci, Gérald.
ces rencontres-là. C'est vraiment encourageant de vous avoir. Puis je vous souhaite à tous une bonne été. Puis que le Seigneur vous bénisse. Puis Seigneur voulant, si on n'est pas au ciel, on devrait recommencer au mois de septembre. Puis on va être content de vous voir revenir. Que le Seigneur vous bénisse. Puis merci beaucoup pour votre encouragement. Là, c'est vraiment merveilleux. Fait qu'on va avoir un moment de prière. Seigneur, notre Dieu, on te remercie encore une fois d'avoir été avec nous pendant cet hiver jusqu'à ce moment maintenant. On te remercie, Seigneur, pour ta parole qui est tellement riche, tellement grande, tellement merveilleuse, qui nous amène à te connaître davantage, Seigneur, pour qu'on puisse te louer, t'adorer, te servir. On te remercie pour tous tes bienfaits. Merci de ce que tu nous as offert, ton salut, que tu as répondu à notre besoin en envoyant ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour nous sauver de nos péchés. Merci encore une fois. Bénis chacun, Seigneur. Protège-nous, garde-nous, puis donne-nous de rester ferme en toi, qu'on puisse toujours se réjouir en toi. On te rend grâce pour toutes ces choses. Honneur pour la gloire de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.